C'est l'heure de prendre des nouvelles du Canada francophone en compagnie de Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse. Bonjour Julien.
Bonjour Hélène.
Est-ce que vous êtes toujours dans la fumée? Parce qu'il y a pas mal de feux là, qui font des ravages en Ontario.
Oui, on l'était la semaine dernière, à peu près en même temps que Toronto avait la pire qualité d'air au monde. On était aussi dans la fumée à Sudbury, mais ça a toujours été un peu moins pire parce que le vent allait plus au sud. Puis là, je vous dirais, depuis la fin de semaine, c'est pas mal calmé. La pluie a aidé. Ici, il y a plus toute la journée hier, donc on n'a pas de fumée. Mais les feux ont toujours l'air de faire rage. Là, les dernières données, c'est 1800 personnes qui ont été évacuées de cette région-là. Puis le combat continue. Puis là, on sait que Doug Ford est à la conférence des premiers ministres des provinces, puis il veut en parler d'une gestion nationale des incendies de forêt. Puis autre détail aussi qui est bon à savoir, c'est que bon, c'est surtout des Premières Nations qui sont touchées par les évacuations parce que les feux sont dans des coins reculés où sont ces Premières Nations-là. Puis, quand Doug Ford était là à Thunder Bay il y a quelques jours pour faire le point sur les incendies, il n'a pas invité aucun chef des Premières Nations à discuter ou à venir avec lui à la conférence de presse et ça l'a choqué un peu les Autochtones.
On les comprend bien. Il faudrait arrêter aussi de se mettre la tête dans le sable concernant les changements climatiques. Alors, oui. Poursuivons maintenant avec une nouvelle tirée de Franco-Presse, légère prédominance de l'anglais au quotidien dans les foyers bilingues.
C'est Statistique Canada qui a publié une nouvelle analyse du recensement de 2021 et de l'enquête sur les populations de langue officielle en milieu minoritaire qui a été faite en 2022. Ça a été publié la semaine dernière. Puis là-dedans, on s'attarde aux gens qui disent utiliser les deux langues officielles à la maison afin de mieux comprendre c'est quoi leurs habitudes d'utilisation des langues. T'sais, est-ce qu'ils en utilisent une plus que l'autre, ce genre de choses-là. Puis bon, là-dedans, on analyse plusieurs choses, mais ce que j'ai retenu, un des points principaux, c'est que les adultes qui ont quand même la langue française comme langue maternelle et qui résident hors Québec, puis qui utilisent les deux langues au moins régulièrement à la maison, disent en plus grande majorité parler plus souvent, avoir plus de chances de parler quotidiennement en anglais qu'en français. Il n'y a pas une énorme différence, c'est 94% de ces francophones-là qui disent qu'ils sont plus susceptibles d'utiliser l'anglais tous les jours, alors que c'est 83% qui disent être plus susceptible d'utiliser le français à tous les jours. Il y a aussi une bonne nouvelle en arrière de ces données-là. Même si on utilise les deux langues à la maison, les parents francophones parlent quand même plus fréquemment en français à leurs enfants. C'est 94% d'entre eux qui disent parler en français à leurs enfants, alors qu'il y en a 66% qui disent parler en anglais avec leurs enfants. Là, vous vous rendez compte que 94 et 66, ça fait plus que 100%. Oui. Mais ce que ça veut dire, c'est ça veut dire qu'il y en a qui parlent les deux langues à leurs enfants. Ils parlent en français et en anglais à des fréquences variables.
Une ville située dans le centre de l'Ontario a reçu plusieurs offres pour sa statue de Champlain. C'est dans l'Express.
Oui, c'est une saga qui se déroule depuis quelques semaines. Là, puis je ne vous en avais pas encore parlé parce que j'attendais de voir ce qui allait se passer. Mais donc, c'est la ville d'Orillia, qui est sur le bord du lac Simcoe, là, au centre de l'Ontario, au nord de Toronto, à quelques une heure ou deux de route. Donc, Orillia avait une statue de Samuel de Champlain. Je vous dis pourquoi, récit historique, pourquoi il y a une statue de Champlain à cet endroit-là, c'est qu'après avoir fondé Québec, Champlain est parti avec des explorateurs, des missionnaires, dont Étienne Brûlé, qui est un nom bien connu ici en Ontario français, pour remonter le Saint-Laurent, puis un peu les Grands Lacs, puis il s'est rendu jusque dans les environs de la baie Georgienne. Il aurait passé l'hiver 1616 dans les alentours de ce qui est aujourd'hui Orillia, puis donc Orillia avait une statue de Champlain pour marquer ce fait historique. La statue avait été enlevée en 2017 pour être restaurée. Puis l'inconfort de la Première Nation de Rama dans la région était connu par rapport à la statue. C'est que les Autochtones sont surtout opposés à l'image de la colonisation que représente Champlain, puis à son rôle à l'arrivée des missionnaires dans la région et quelques souffrances qui en ont suivi. Le conseil municipal avait un plan pour réinstaller la statue en modifiant un peu sa disposition parce que oui, il y a Champlain, mais il y a d'autres éléments autour du socle, dont il y avait une image d'un autochtone au pied d'un missionnaire puis d'un trappeur, puis c'était un des aspects qu'il n'aimait pas aussi. Donc, on avait l'intention de modifier la statue, mais elle a été réinstallée sans faire les modifications. On allait les faire plus tard. Fait que la statue a été rapidement vandalisée après sa réinstallation. Ce que la ville a décidé de faire, donc on a voté pour l'enlever à nouveau en attendant de trouver une solution plus permanente. Il y a plusieurs personnes en Ontario, dont des anciens ministres et même le ministre actuel du patrimoine, Mark Miller, qui disent qu'eux préféraient que la statue reste en Ontario. Les conseillers municipaux d'Aurelia, eux, demandent de mieux consulter, de prendre en compte les doléances des Premières Nations. Puis, ce que nous apprend l'Express, finalement, c'est qu'il y a eu, au cours des dernières semaines, environ 30 groupes et municipalités, dont quelques-unes au Québec, qui ont offert à Aurelia de récupérer la statue. Dans les villes au Québec, on dit qu'il y a, entre autres, la ville de Champlain, à côté de Trois-Rivières, puis Lévis, qui ont contacté le maire d'Aurelia. Pour l'instant, il n'y a pas de décision qui a été prise, là, mais le maire préférerait quand même garder la statue dans la ville.
Bon. Alors, Samuel de Champlain fait des vagues par les temps qui courent. Là. Il ne fait pas l'unanimité. Oui. Il y en a qui le veulent, il y en a qui ne le veulent pas. Des anglophones qui persévèrent dans le français, c'est l'Eau vive qui nous présente ces anglophones.
Oui, le journal nous apprend l'existence d'un groupe qui s'appelle Inspiration Bilingue. C'est un groupe qui est composé principalement d'anglophones de l'Ouest canadien, même il y a un Américain dans le groupe, puis qui se réunissent pour pratiquer leur français quelques fois par mois. Il y a plusieurs anciens membres de Toastmasters dans ce groupe-là, donc le format Toastmasters les a inspirés. Ils ont gardé un peu cette structure-là dans leur groupe, et donc ils présentent des discours et font de la rétroaction sur leur performance pour tenter de progresser et d'améliorer leur français. Il y a plusieurs raisons pourquoi ces gens-là participent. Le journal nous présente, entre autres, Richard Kerbes, qui, lui, dit avoir aimé le français dès qu'il a commencé à l'apprendre au secondaire, mais que maintenant, il y a une motivation de plus parce que sa femme est francophone puis il veut parler en français avec elle. Sa femme, Evelyne, participe aussi au groupe, puis pour elle, ben, c'est une occasion. Elle n'a pas souvent l'occasion de parler en français dans la vie. Elle s'informe puis elle lit en français, mais parler, c'est plus rare en Saskatchewan, donc c'est une occasion de plus. Puis, pour un autre membre à qui ils ont parlé, Eric Woodsworth, ben, c'est juste un désir de mieux comprendre la communauté francophone en Saskatchewan et de l'appuyer. Donc, vous voyez, on a des alliés pour la francophonie partout au pays, puis on a toutes sortes de bonnes raisons de continuer à parler en français.
Mais oui, c'est très encourageant, ça. C'est un groupe qui s'appelle Inspiration Bilingue, c'est comme ça qu'il s'appelle.
Exactement.
On les salue. Et on termine avec une question. Est-ce possible de vivre sans voiture au Yukon?
Je vous donne la réponse tout de suite pour ne pas vous faire languir, mais c'est pas possible. Ben non, en fait, c'est possible, mais c'est une option marginale parce qu'elle demande beaucoup d'organisation et de solidarité et d'adaptation. Ce qu'on nous donne comme exemple, entre autres, c'est un monsieur, un mineur qui est à la retraite, qui lui en avait assez de payer pour une voiture, les assurances puis l'essence. Donc, il s'est débarrassé de sa voiture, s'est installé dans une plus petite habitation qui est un peu plus à l'extérieur de la capitale Whitehorse. Puis, il fait des contrats de temps en temps. Donc, pour voyager, il fait surtout du pouce. Puis, ça a l'air de bien fonctionner. Ça peut être un peu plus difficile pour les enfants qui, eux, ont plus de limites pour se déplacer. On parle surtout des enfants qui vivent dans les petites localités autour de Whitehorse, mais qui vont à l'école à Whitehorse. On dit qu'il y en a qui peuvent faire jusqu'à une heure d'autobus le matin et le soir. Et quand ces enfants-là, ben, ils se font des amis à l'école, qui demeurent dans d'autres localités ou à Whitehorse, mais là, ça devient plus compliqué de les voir la fin de semaine ou le soir. Ça demande une bonne collaboration des parents. Un peu plus loin, à Ames Junction, qui est environ à 2 heures de route à l'ouest de Whitehorse, il y a Isabelle Piché qui a créé un service de navette vers la capitale parce qu'elle a entendu des touristes dire qu'il avait dû dépenser 400 $ pour faire le trajet entre Whitehorse et Ames Junction. Donc, 400 $ pour 200 kilomètres, c'est un peu cher le kilomètre.
Un peu beaucoup,
oui. Elle a dit que son service est très occupé quand même, puis apprécié. Puis, il y a même un couple qui a décidé d'emménager à Ames Junction sans voiture, parce qu'ils savaient qu'elle allait pouvoir profiter du service pour aller à la capitale. Donc, on peut se douter aussi que c'est encore plus compliqué l'hiver sans voiture, et c'est le cas, mais ce qu'on nous indique aussi dans l'article, c'est que quand le printemps arrive, Whitehorse encourage quand même le déplacement actif. Il y a de la place pour les vélos et la marche quand même. Et même qu'on nous apprend que à Whitehorse, il y a 33,9 km de sentiers par 1000 habitants, tandis que dans la capitale du Yukon seulement, tandis que la moyenne au Canada, c'est 0,9 km par 1000 habitants. Donc, ils sont bien desservis de ce côté-là s'ils veulent bien faire l'effort.
En effet. Merci beaucoup, Julien, pour tout cela et on se retrouve la semaine prochaine.
Mais avec plaisir.